Les archives d'Afrique, Alain Foka.
Bonjour à tous et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la deuxième partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme.
Certes, le Togo est un petit pays. Sa superficie de 53 000 km², sa population de 1 200 000 habitants semble bien modeste à l'échelle des grands de ce monde. Ce ne sera cependant ni le plus petit, ni le moins peuplé des États membres de l'Organisation des Nations Unies, en croire l'honorable délégué des États-Unis, M. Cabot Lodge, qui nous apprenait au Conseil de sécurité que 25 États indépendants et souverains ici représentés avaient un territoire plus exigu et que 15 États avaient une population moins importante. Mais ces considérations importent peu, car une petite nation peut avoir assez de sagesse et apporter au maintien de la paix et de la concorde une contribution très efficace et hors de toute proportion.
C'est justement cet état d'esprit qui va animer, qui va inspirer la politique étrangère de Sylvanus Olympio, le premier président de la République du Togo. En quelques années, à la tête de la jeune nation dont il proclame l'indépendance le 27 avril 1960, il va en faire un interlocuteur, une des nations phares dans la construction de l'unité africaine qui, pour lui, est la clé, l'unique moyen pour le continent de faire face aux grands ensembles qui partout se construisent. Sylvanus Olympio, le président du Togo, va même devenir l'interprète, l'interlocuteur privilégié entre les nations africaines d'expression anglaise et celles de langue française. Suite et fin de notre série consacrée à ce personnage dont l'ombre plane toujours sur le paysage politique togolais.
Notre problème le plus urgent n'est pas, comme on le prétend, la nécessité absolue pour tous les États africains de vivre sous un seul et même régime politique. Ce qui presse, au contraire, c'est la lutte pour notre développement économique et culturel, l'épanouissement de nos pays que nous avons réussi à libérer de l'exploitation coloniale. Or, ce développement ne peut être rapide que si tous les États africains s'entendent et collaborent franchement entre eux sans aucune prétention d'hégémonie.
C'est justement parce qu'il croit à l'urgence, à l'importance de l'unité africaine, qu'il a accepté de travailler sur le projet de charte de cette organisation qu'il doit présenter à la fin du week-end au Liberia, où il a été invité par son homologue, le président Tubman. Si sur le plan national, le climat est tendu, avec une rumeur de plus en plus précise sur l'imminence d'un coup de force des militaires togolais démobilisés de l'armée française, qu'ils refusent obstinément d'intégrer dans celle de leur pays, sur la scène internationale, il jouit d'un réel prestige, d'un grand respect de ses pairs qui voient en lui un véritable militant de la cause africaine, un panafricaniste convaincu. Nous sommes le 12 janvier 1963 au soir et le président Sylvanus Olympio travaille donc sur son texte, sur son projet de charte constitutive de l'organisation de l'unité africaine qui se précise dans sa villa de la route d'Anetcho. Gilles-Christ Olympio raconte leur arrivée.
Ils sont arrivés un petit nombre vers 11h du soir. Et tout le monde était au lit à l'époque. Sylvanus Olympio, sa femme et ses petits-neveux, ils ont commencé à tirer sur la maison. Et en même temps, il y a des gens qui sont venus de camp militaire à la rescousse du président. Malheureusement, ils n'avaient pas les munitions qu'il faut. Donc ils ont été faits prisonniers très rapidement.
C'est donc de la fenêtre de son bureau que Sylvanus Olympio va apercevoir ce groupe de putschistes qui vient de rentrer dans sa cour après avoir neutralisé les deux gardes en faction devant la grille et qui s'apprête à l'arrêter. Après avoir rapidement mis en sécurité sa famille, c'est-à-dire sa femme et les nièces qui couchent chez lui ce soir-là dans une salle en retrait, il va enjamber le mur qui sépare sa résidence de l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Mais les bureaux de la chancellerie sont fermés. Il se réfugie alors dans un véhicule garé dans la cour. Alerté par les coups de feu qu'ont tiré les putschistes, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, Poulada, qui est sorti pour s'enquérir des raisons de la fusillade, est interpellé discrètement par le président Sylvanus Olympio au moment où il passe à côté du véhicule dans lequel il s'est caché. Le chef de l'État lui explique brièvement la situation et le représentant local des États-Unis lui promet d'aller chercher les clés pour le mettre en sécurité dans les bureaux de l'ambassade. De l'autre côté du mur, les putschistes qui n'ont pas pu mettre la main sur le président, déçus, retournent au camp au coin qu'ils avaient conquis quelque temps avant ce coup de force. Mais quatre d'entre eux, qui ne peuvent se résoudre à le laisser ainsi filer, et qui mesurent la gravité de la situation s'ils réussissaient à s'enfuir, reviennent sur les lieux de leur attaque, à la villa de Silvanus Olympio. Il est 5 heures du matin. Ils sont certains qu'il n'a pas pu aller bien loin puisque le dispositif de quadrillage mis en place ne lui permettait pas de s'échapper. Ces quatre militaires sont Robert Adewi, Janvier Chango, Emmanuel Beaujolais et Étienne Yadema. De l'autre côté du mur, le président Silvanus Olympio, dissimulé dans la voiture garée dans la cour de la représentation américaine, attend toujours le retour de l'ambassadeur qui est allé chercher les clés. Mais cette fois-ci, curieusement, les soldats qui sont revenus vont enjamber rapidement la barrière de l'ambassade et aller extraire le président de la voiture. Qui les a informés sur l'endroit où ils se cachaient ? À cette question, les témoignages diffèrent. Mais une chose revient souvent. L'ambassadeur des États-Unis aurait été intercepté par les putschistes au moment où il retournait à l'ambassade. Et sous la menace, il serait reparti chez lui. Mais une information jamais confirmée et pas vraiment vérifiable dans l'état actuel des choses veut qu'une fois retourné chez lui, il ait appelé son homologue français au téléphone et qu'il lui ait tout raconté, qu'il lui ait même révélé la cache du président. L'ambassadeur de France lui aurait répondu « Ne bougez pas, je m'en occupe ». Ce n'est pas exactement votre version des faits, Gilles-Christ Olympio. Vous avez un autre déroulement des événements, une autre version de l'arrestation de votre père.
Ils sont rentrés dans l'ambassade et ils ont trouvé Olympio assis dans une voiture, garée dans la cour de l'ambassade. Mais ils n'ont pas agi. Ils ont téléphoné à l'ambassade de France, monsieur l'ambassadeur Mazoyer, pour demander ce qu'il doit faire. Et c'est ce Mazoyer qui a averti l'ambassadeur des USA. Et l'ambassadeur des USA, M. Poulada, est parti à trouver Olympio. Elle lui a dit d'attendre qu'il allait chercher les clés de la chancellerie.
Quoi qu'il en soit, Silvanus Olympio est sorti de la voiture par les putschistes qui le poussent, les mains en l'air, vers la sortie. Il est quelque peu bousculé parce qu'il n'obéit pas aux ordres des mutins qui lui demandent d'avancer. De la fenêtre de la villa, Dina, l'épouse de Silvanus Olympio, votre mère, va voir comment il est bousculé par les soldats, Gilles-Christ Olympio.
Selon les versions de notre mère, elle a vu Olympio sorti de la voiture par 4 ou 5 de ses militaires et devant l'ambassade des États-Unis, le portail, elle a refusé de marcher. Ils l'ont tué. Après l'avoir tué, ils ont pris son corps et l'ont mis sous le manguier devant l'ambassade. Et puis ils se sont sauvés.
Mais si elle a vu les personnes qui l'ont sorti du véhicule, est-ce qu'elle en a reconnu un ? Est-ce qu'elle a vu celui qui lui a tiré dessus ?
Elle ne connaît aucun des militaires. Et ces militaires n'étaient même pas dans l'armée togolaise. Donc ce n'est pas un coup d'état militaire au sens strict du mot. C'est un crime commis par des gens qui voulaient intégrer l'armée, mais qu'ils n'avaient pas encore fait. Elle a couru pour le voir et l'a trouvé mort devant l'ambassade des États-Unis. Sous le manguier. Voilà sa version.
L'historien a touché à Bobli.
Ce qui est certain, c'est que il n'avait pas l'intention d'assassiner le chef de l'État. Il voulait l'amener au camp militaire, le forcer à démissionner, si possible, l'amener à composer afin qu'il puisse se retrouver dans l'armée.
Mais l'opération, le coup d'État, s'est soldé par la mort du président Silvanus Olympio.
Yadema lui-même a dit à des journalistes, Associated Press et Togo, Paris Match, je crois, que Olympio, devant le portail, ne voulait plus avancer. Il lui a envoyé 3 balles dans la poitrine et le bas-ventre. Et comme c'est la tradition en Indochine, il a achevé son travail en lui coupant les veines avec sa baïonnette.
Effectivement, le Paris Match de la semaine suivante publie le témoignage de l'adjudant-chef Étienne Yadema qui dit ceci. Je l'ai descendu parce qu'il ne voulait pas avancer. On en avait assez. Il y avait trop d'injustices. Alors on s'est réunis à 20 et l'on a décidé de changer de gouvernement. Il était 00h30 samedi soir quand on est arrivé devant la maison d'Olympio. Notre idée, c'était juste de le faire prisonnier. Les deux sentinelles ont dit « Qui va là ?»« C'est moi, adjudant-chef Yadema. On vient pour arrêter le président. » Il y a eu un petit moment de silence. Entre frères d'armes, j'ai dit « On ne va pas se tirer dessus bêtement. » « Vous êtes sûr de pouvoir le prendre ?» ont demandé les sentinelles. « La maison est cernée. » Mais quand on est rentré, Olympio a tiré deux coups de revolver dans l'escalier et il a sauté par la fenêtre de sa chambre. Il est tombé sur le toit du poulailler et il a filé dans le jardin. Comme tout était gardé, on a décidé d'attendre le jour. Vers 6 heures du matin, un de mes hommes a entendu claquer la portière d'une voiture. Je me suis approché. C'était Olympio. Il essayait de se cacher entre les coussins et le plancher. Je l'ai fait sortir de là et je lui ai dit de marcher devant. Il a fait quelques mètres jusqu'au portail de l'ambassade d'Amérique. Et là, il a refusé d'avancer. On a discuté. Il s'est mis à m'injurier. Il criait très fort. Le jour se levait et les gens commençaient d'arriver. Ça pouvait faire un incident. Alors, j'ai tiré. Ce matin du 13 janvier donc, Silvanus Olympio est tué. Les putschistes qui n'avaient pas vraiment prévu ce scénario sont un peu désemparés. Il y a comme un flottement dans la chaîne de commandement. Ils vont aussitôt faire appel à un homme pour prendre le pouvoir. Nicolas Grunitzky, le beau-frère de Silvanus Olympio qui vivait depuis quelque temps en exil au Dahomey voisin.
Monsieur, comment on vous a convoqué ici ce soir, c'est pour vous donner une idée de la situation actuelle au Togo. Actuellement, le président Grunitzky a accepté de former un gouvernement. Or, nous avons insisté, et M. Grunitzky est d'accord avec nous, que ce gouvernement soit un gouvernement d'union nationale. Il ne faudrait pas qu'on retombe dans les mêmes erreurs.
Le comité insurrectionnel intervient-il dans les pourparlers engagés en vue de la composition du gouvernement?
Nous vous avons déclaré que nous étions apolitiques et nous maintenons notre position. Nous sommes apolitiques.
Est-ce que vous pouvez nous dire, mon lieutenant, si votre organisme, le comité insurrectionnel, est appelé à disparaître prochainement pour laisser la place à ce gouvernement provisoire?
Dès que le gouvernement provisoire sera en place, le comité insurrectionnel s'occupera uniquement des affaires militaires.
Il y a quelques années, pour la préparation de cette série d'émissions, le président Gnassi Gbe Yadema avait accepté de me recevoir pour me parler un peu de cette période chaude de l'histoire du Togo. Voici ce qu'il m'a répondu lorsque je lui ai posé la question de savoir pourquoi ils avaient décidé de perpétrer ce putsch.
Lorsque ça n'allait pas du tout, les prisons étaient remplies. Beaucoup sont partis en exil. La façon dont les prisonniers vivaient dans des cachots. Je vous donne un exemple du maître Santos qui, dans sa prison, il ne savait pas quand il est nuit, quand il est jour. Et lorsqu'il a été libéré, eh bien, on l'a envoyé à Dakar pour être soigné. Et en 6 mois, il a recouvré. Il était pratiquement aveugle. Il a recouvré, n'est-ce pas, sa vie.
Mais pourquoi avoir choisi Nicolas Grunitzky pour le remplacer après le putsch?
Vous savez que l'armée n'avait aucune ambition politique.
Monsieur le chancelier Mifdor, je sais que vous n'étiez pas du même bord que le président à cette époque-là. Mais selon vous, étaient-ce là les seules raisons qui ont poussé l'armée à renverser Olympio? C'est une attitude un peu spéciale, non?
C'est sa revendication qui l'ont conduit là. Et c'est la première fois que cela se passe dans notre zone d'Afrique. Et c'est pour ça que nous sommes convaincus que ce qui s'est passé n'était pas une ambition de l'armée de prendre le pouvoir.
Et quelles sont, Monsieur le Président, les réelles raisons du choix de la personne même de Nicolas Grunitzky?
Nous ne sommes pas des gens régionalistes. Tout simplement, M. Grunitzky était Premier ministre. Et c'est pourquoi l'armée a pensé que, comme il a déjà, n'est-ce pas, été Premier ministre, il fallait lui confier, n'est-ce pas, le pouvoir. Parce qu'on sait ce qu'on a, mais on ne sait jamais ce qu'on aura. C'est la seule raison qu'il avait, celui qui a conduit le pays à l'autonomie.
Monsieur le Président, à cette époque, il n'y avait personne d'autre que lui qui avait déjà été au pouvoir et qui n'avait pas pu être élu.
Le problème, c'est que vous parlez, n'est-ce pas, de 58. Mais il y a eu les élections, n'est-ce pas, en 1958. Mais tout simplement, on sait, quand vous voulez faire quelque chose, il faut en tenir compte, n'est-ce pas, de l'appréciation du peuple. Le président, n'est-ce pas, Grunitzky était l'homme du peuple. Il était très aimé par le peuple. C'était un homme, n'est-ce pas, humain. Un homme, n'est-ce pas, qui ne sait pas créer une place à part, qui n'est pas au-dessus du peuple. Il est issu du peuple et il est avec le peuple. Et c'est pourquoi nous avons pensé qu'il était mieux pour faire, n'est-ce pas, une politique de réconciliation. Mais ce qui venait d'être renversé, mais ils ne pouvaient pas faire les procédures. Et puis encore, le peuple a les juger à l'œuvre.
Quoi qu'il en soit, Nicolas Gruevski, qui hérite sans l'avoir demandé du pouvoir, souhaite que les choses soient clarifiées. Il demande donc au comité insurrectionnel qui a perpétré le putsch de s'expliquer d'abord.
Il faudra que le comité, parce que quand même, pour nous, un point est capital, puisque la réaction à travers le monde voudrait faire passer le Togo pour un pays d'assassins. Il faudra que ceux qui ont été les artisans de ce coup d'État expliquent devant vous quelles sont les conditions qui ont amené la mort du président Sylvanos Olympio. Moi, je suis hors du coup. On m'a appelé avec insistance pour venir prendre en main les affaires. Je suis venu. Mais j'aimerais quand même que tout soit clair devant le monde. Et je demande à nos amis, qui sont les promoteurs du coup d'État, de faire connaître au monde entier les circonstances de la mort de Sylvanos Olympio.
Est-ce que vous pouvez répondre à cette question du président pressenti?
On ne peut être partout d'assassins. Certains même le pètent de factieux. Je crois que c'est pas vrai. Je vais profiter de l'occasion qui m'est donnée par le président Gruevski pour vous exposer les faits. D'abord, je tiens à vous dire que l'ex-président Olympio ne s'est pas conduit en homme d'État. Parce que quand le commando qui était chargé d'aller le récupérer est arrivé chez lui, le commando avait reçu des ordres stricts. Prendre le président et l'amener. Actuellement, nous avons ici des ministres qui ont été trouvés avec des pistolets sur eux. Or, ces ministres ne se sont pas servis de leurs armes et ne leur est rien arrivé. Quand le chef du commando a frappé à la porte du président Olympio, le président Olympio a répliqué en tirant. Le chef du commando a tiré quelques rafales de pistolets mitrailleurs pour faire comprendre au président qu'ils étaient armés et qu'ils étaient décidés. Le président Olympio a sauté par la fenêtre et il est parti. Il s'est caché dans sa cour. Le matin, on l'a récupéré et on lui a dit d'aller s'habiller pour qu'on l'amène ici au camp. Après s'être habillé, le président Olympio, une fois sur la route, a pris la fuite en direction de l'ambassade d'Amérique. C'est ça qui a provoqué sa mort.
Pour vous donc, la mort du président Olympio est une mort accidentelle?
C'est une mort accidentelle.
En ce mois de janvier 1963, alors que Nicolas Gruevski s'installe au pouvoir, la famille Olympio prend le chemin de l'exil. Gilles-Christ Olympio, le fils aîné.
On est parti plutôt d'Aomé, devenu le Bénin. Et ma mère s'est installée à Agoué, un village frontalier du Togo. Et c'est d'ailleurs là qu'elle est morte, un an après. Nous tous nous sommes partis au Bénin. Et d'ailleurs, c'est au Bénin que Sylvanos Olympio a été enterré, dans le village d'Agoué.
Plusieurs années après, le nom du président Olympio continue de planer sur le paysage politique togolais. Espérons que le processus vérité et réconciliation que s'apprêtent à mettre en route les autorités togolaises permettra de fermer, de cicatriser cette plaie, de clore cet épisode de l'histoire qui continue de diviser le pays. Nos remerciements à la Sonothèque de Radio France Internationale et à l'Institut National de l'Audiovisuel INA pour leurs précieuses archives. La mise en onde de The Magazine était assurée par Thomas Verrière. Delphine Michaud, Fourne Guyenne et Alain Foka, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour aller à la découverte d'un autre personnage marquant de l'histoire contemporaine de l'Afrique. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale.
Écoutez Archives d'Afrique, rendez-vous sur notre site internet rfi.fr.